Bonjour à tous, vous allez bien? Merci de me laisser cette place ce matin. Je suis très honoré de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Je vous avoue que ce thème de l'intergénération, au début, j'étais pas très inspiré. Après, j'étais vers Jésus, je lui ai demandé, et c'est lui qui m'a inspiré. Et il m'a bien inspiré, il m'a même transformé en préparant ce message, une toute nouvelle vision de comment je vois l'Église, de comment je vois nos générations, et je vais la partager avec vous. Alors, l'intergénération, ça veut dire quoi? Inter, entre les générations. Et je me suis dit, si on dit entre les générations, c'est qu'entre deux générations, il y a quelque chose entre les générations. Et souvent, malheureusement, il y a un vide, il y a un écart, il y a un gap. On appelle ça le choc des générations. On a pu le constater souvent, hein, dans certaines cultures, être avec plusieurs générations dans la même famille, dans certains pays, on peut le voir, on vit avec nos parents, nos grands-parents. Et puis, dans la culture, c'est bien comme ça. Mais ici, en Suisse, aïe, aïe, aïe. C'est pas tout à fait la même chose, hein. En Suisse, on se veut plutôt individualiste, une société assez consommatrice, chacun pour soi. On est un peu dans cet état d'esprit. Pourquoi cet écart entre les générations? J'ai assez réfléchi et je me suis dit, en fait, pour moi, une génération égale une culture. Vous savez, quand vous partez en voyage, en vacances, vous découvrez un autre pays, une autre culture, les gens parlent une autre langue, s'habillent différemment, ils ont d'autres traditions. On peut trouver ça amusant ou intéressant. Mais au bout de 2-3 semaines, on a envie de rentrer chez soi quand même, on est bien dans nos habitudes, dans ce qu'on connaît, dans notre langue, dans les gens qui s'habillent la même chose que nous, la nourriture qui nous fait plus mal au ventre parce qu'on n'était pas habitué, suivant comment. Et dans nos générations, c'est pareil. Si je prends un peu deux clichés, les jeunes et puis les plus âgés, les jeunes, ils ont vraiment leur langage à eux, qu'on ne va pas forcément comprendre, qu'on ne va pas forcément, quand on dit qu'on pèse, qu'on sort du lourd, qu'on est swag, pas tout le monde va comprendre, n'est-ce pas? Voilà, un style vestimentaire, pourquoi est-ce qu'on doit porter nos pantalons jusqu'aux genoux ou alors beaucoup trop serrés. Voilà, on va manger McDo ou crado, comme certains disent, un kebab ou une pizza bien gras comme ça. C'est les jeunes, ils sont comme ça. Et si on prend de l'autre côté les personnes un peu plus âgées, alors moi-même je peux pas dire qu'est-ce qu'elles font parce que je ne suis pas encore de cette partie. D'ailleurs, j'ai un petit test, enfin pas un petit test, un petit conseil. Si vous voulez savoir si vous faites partie de la catégorie des jeunes, un moyen très simple. Si vous employez le mot « jeunes », c'est que vous ne faites plus partie de la catégorie des jeunes. Je suis désolé. « Jeunes », c'est un mot employé par les non-jeunes pour parler des jeunes. Comme ça, vous saurez. Mais quand on est peut-être moins jeune, j'ai noté quelques phrases en fait que peut-être mes parents, mes grands-parents, mes professeurs, des plus âgés que moi, ont pu dire. « Ah, il n'a rien compris à la vie. » On sent l'expérience hein, des plus âgés. « Comment ça, tu ne manges pas ta soupe de choux au cardon ? Ah, tu ne sais pas ce qui est bon. » Ah, il devrait être plus sérieux dans ses études, il pourrait avoir un beau métier. Mes professeurs me disaient tout le temps, tu as du potentiel, utilise-le. J'ai dit, bon, d'accord. Ah là là, c'est Jones. Ils ne savent pas ce que c'est que la vraie musique. Je me souviens quand j'étais ado et que j'écoutais peut-être du métal, du hard rock, mon père il disait que c'était du bruit. Papa, désolé pour le bruit que je t'ai fait écouter. Ah, moi aussi j'ai été jeune, tu devrais m'écouter. Il n'y a plus de respect dans cette jeunesse, ah, ils n'ont pas de limites. Voilà, on sent qu'il y a de l'expérience, on sent que la vie des plus âgés n'a rien à voir avec la vie des plus jeunes. Chacun sa culture. Et malheureusement, on peut facilement retrouver ça, même dans la foi. Un jeune ne va pas vivre forcément sa foi de la même façon qu'une personne qui a 30 ans d'expérience avec Dieu. La louange d'il y a 20 ans, je suis désolé, mais ne peut plus correspondre à un jeune d'aujourd'hui. Aujourd'hui, aux jeunes, on va prêcher des messages jeunes. Et au dimanche matin, des messages peut-être un peu plus longs, plus consistants. Et c'est normal. C'est normal, nous avons des besoins différents. Mais j'en viens à mes premières questions. Est-ce que ces besoins différents doivent-ils nous séparer? Est-ce qu'ils doivent faire en sorte qu'il y a cet écart, cette division entre les générations? Est-ce que c'est normal, acceptable? Comment est-ce qu'on peut être un corps uni si les membres ne le sont pas? C'est pas possible. Alors, j'ai fait cette conclusion et je me suis dit, si on ne bouge pas, si l'Église ne se lève pas pour changer ça, alors ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça. Et le plan du diable, c'est vraiment de diviser son Église. Alors nous devons nous lever, on doit refuser cet écart, on doit se lever et faire quelque chose pour qu'on puisse être unis ensemble. Alors, entrons dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle du corps. C'est important d'être unis comme un seul corps. Et mon premier point est de nous encourager à briser, un esprit peut-être d'individualisme. Vous allez voir que des fois, sans faire exprès vraiment, on peut venir à l'église vraiment avec un peu d'individualisme. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 21. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, jeunes ou vieux, c'est moi qui le rajoute, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? Et si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? Et s'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Et s'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « Je n'ai pas besoin de vous ». Amen. Si vous êtes comme moi, physiquement, plutôt classe donc, et vous l'êtes, non, physiquement, si vos membres sont plutôt bien attachés, hein, logiquement, vos pieds ne vont pas vous emmener sans que vous contrôliez, que votre main elle va faire comme ça, non, non. Votre bouche, elle va contrôler ce qu'elle mange. Et c'est ça le but du corps, c'est qu'il soit bien uni. Tous les membres, ils n'ont pas chacun une volonté. Et le corps, il est entier, uni, et comme ça, il peut bien fonctionner, aller de l'avant. C'est le but que nous puissions venir à l'église comme un seul corps, et pas seulement comme un seul membre. Vous avez remarqué qu'on dit l'assemblée, le peuple, le corps, l'église, et pas chacun des membres de l'Église, chacun des membres du peuple. Plus souvent, on utilise cette généralité parce que Jésus veut que nous soyons un seul corps. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir une relation individuelle et personnelle avec Dieu ? Bien sûr que si. Avoir une relation personnelle, intime, avec Dieu, c'est primordial. Lire sa parole, prier, passer du temps dans sa présence, recevoir des révélations de la part de Dieu, le laisser nous guérir, nous transformer, c'est très très important. Et peut-être que ce que je vais vous dire, ça va vous choquer un petit peu, mais pour moi, ça... C'est pas le dimanche matin qu'on le fait. C'est pas le dimanche matin qu'on vit notre foi avec Dieu. Personnellement, j'ai pas envie d'être un chrétien juste du dimanche. Pour moi, c'est dans le secret de ma chambre. C'est en priant et en chantant sur mon vélo en allant au travail, ou si je dois prendre le bus en ouvrant la parole. C'est prier sans cesse, nous disait Paul. Communion sans cesse avec Dieu. Alors comme ça, le dimanche matin, ça nous laisse de la place, oui, pour vivre un temps avec Dieu, mais pas juste pour moi. Pas juste moi tout seul en venant à l'église et en repartant, mais en tant que corps, en tant qu'église. J'ai réalisé que nous n'allons pas à l'église, nous sommes l'église. Nous sommes l'église. L'église, en fait, quand on dit « je vais à l'église », c'est comme si je disais « je vais dans un lieu, je vais dans le temple ». Mais nous sommes l'église. Nous sommes, c'est nous l'église. Et je ne sais pas vous, mais combien de fois je suis venu comme consommer à l'église. Pas du tout volontairement. Mais je ne me rendais pas compte. J'arrivais à l'église, je me disais, ah oui, je vais vivre un culte personnel de plus. J'arrive, je vis la louange, super, je prends le message pour moi, je suis béni, je discute avec deux, trois amis que je connais, je salue une ou deux personnes que je ne connais pas, et je rentre chez moi. Même dans mon service, hein, si j'étais avec les ados, je priais de tout mon cœur pour recevoir une vraie pensée pour eux. Et puis, mais pour moi, j'allais à l'église, là c'est le moment des ados, fixé juste sur les ados, et puis je passe le temps avec eux, puis je rentre chez moi. Il est où l'esprit de corps ? Il n'est pas là. Je suis venu individuellement. Je suis venu dans le lieu, je suis ressorti. Et puis c'est tout. Et oui, longtemps, ma vision de l'église, c'était un endroit où je pouvais venir juste vivre ma foi, un culte de plus. Et aujourd'hui, je me rends compte que si on veut vraiment être un esprit de corps, il faut juste déjà commencer par changer sa vision. Plus venir à l'église, j'essaie de plus venir le matin en me disant je vais au culte, mais je me dis je vais rencontrer tout le peuple de l'église, on va se rencontrer tous ensemble et louer Dieu. Parce que quand on dit je viens au culte, le culte, hein, on l'offre, c'est pas pour nous, c'est un culte qu'on rend à Dieu. Et d'ailleurs, Dieu habite dans les louanges de son peuple, ou il habite dans les louanges de ses membres, non, de son peuple. Alors venons comme un seul corps, venons comme un seul groupe, pensons un, pensons unité, pensons un vraiment. Dieu veut que nous soyons un seul corps. Et peut-être pour que vous compreniez un peu bien l'idée, j'ai une petite illustration de, Comment être un seul corps? Comment briser l'individualisme? À l'armée, moi j'ai fait 10 mois d'armée, ils sont très forts pour ça. Très très forts, pour qu'il n'y ait pas une seule personne, mais qu'on fonctionne vraiment comme... Même à l'armée, ils utilisent le mot esprit de corps. C'est fou, hein, esprit de corps, à croire que c'est tiré de la Bible. Et alors ce qu'ils font, c'est qu'on fonctionne par petits groupes, par sections, ils appellent ça. Si un seul fait une bêtise, tous les autres y payent. Donc, il faut être debout à 5h30 du matin. Si vous êtes assis sur votre lit ou encore couché, à 5h32, alors le lendemain matin, toute la caserne se lève à 5h du matin. Et là, toute la caserne, le lendemain, vous regarde. C'est à cause de toi qu'on s'est levé une demi-heure plus tôt. Et là, on s'arrête tout de suite de faire des bêtises. Et tout de suite, on se rend vite compte qu'il ne s'agit pas de moi ou de l'autre ou d'un autre. Il s'agit du groupe. Purée, je suis un peu en retard, aide-moi. Ok, je vais vite t'aider. Et puis, on se file des coups de main, on fait en sorte que le groupe aille bien. Parce que si un fait une bêtise, même si ça ne me concerne pas et que je m'en fiche, eh ben je paye quand même. Il ne s'agit plus vraiment d'une seule personne. Et c'est pareil dans l'Église. Il ne s'agit pas juste de vous, de moi ou de quelqu'un d'autre. Il s'agit du corps. Il s'agit de tout le troupeau de brebis qu'on est. Soyons unis. Venons à l'Église comme un seul corps. Et vous savez, je crois que le bon moyen de réduire cet écart entre les générations, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il va être comme un ciment. Vous savez, on a des articulations qui sont bien pratiques entre différents membres. Et bien, l'amour de Dieu, c'est ça. C'est le ciment entre les générations, entre les différentes cultures, entre nos différences. Et je crois que vraiment, nous devons exercer l'amour de Dieu dans nos vies. Vraiment exercer l'amour de Dieu. Jésus, je pense qu'il avait bien compris que le rapport entre les différents êtres humains, ça allait être bien compliqué. Déjà, entre un couple marié, des fois, c'est compliqué. Alors imaginez un jeune et un plus âgé qui sont d'une culture différente, d'un pays différent, qui vivent leur foi différente, qui ont été éduqués d'une manière différente. Allez vous entendre. Il y a tellement de cultures ici, c'est riche, tellement de jeunes, de moins jeunes, de moins jeunes et de moins jeunes. C'est super riche, mais c'est super difficile des fois à se lier, et je comprends ça. Et Jésus nous a bombardés d'encouragement dans sa parole. Et là, je vais vous lire toute une liste de versets, si vous voulez les références, je pourrais vous les donner à la fin, qui nous encourage à nous aimer, à nous pardonner. Aimez-vous les uns les autres. Rien que ça, waouh. Ayez soin les uns des autres. Supportez-vous les uns les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Pardonnez-vous les uns aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Ne vous jugez pas les uns les autres. Ne parlez point mal les uns des autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne vous mordez pas les uns les autres. Ne vous provoquez pas les uns les autres. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Usez de prévenance les uns envers les autres. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Et je n'ai pas tout lu. La parole, elle est pleine. Elle est pleine, pleine de versets nous encourageant à nous aimer, à nous laver les pieds, à ne pas penser à nous, mais à penser à l'autre. L'amour de Jésus, ce n'est pas l'amour qui est dirigé vers nous. L'amour agapé, l'amour qui n'attend rien en retour. En lisant la parole, on peut voir Jésus qui est juste animé par l'amour, comme s'il ne contrôle pas, c'est l'amour qui le conduit vers les gens. Combien de fois on voit Jésus qui a compassion des foules, compassion de qui d'entre nous irait vers un lépreux? Personne. Jésus, tellement rempli d'amour, irait. Et je crois que nous devons être remplis de cet amour-là de Dieu, cet amour parfait qui passe au-dessus de tout. Pour nous pousser vers une génération qui est différente, pour nous pousser vers quelqu'un qui est complètement différent de nous. Soyons remplis de cet amour, aimons-nous, faisons un effort. Vous savez, dans cette différence de génération, il y a vraiment un choc. C'est concret, c'est là, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas. Et je me souviens, avoir servi l'Église dans un domaine particulier et avoir été blessé juste par une réflexion d'une personne plus âgée. Je servais de tout mon cœur, je donnais vraiment mon service, je pensais faire quelque chose de très bien. Et même maintenant, je pense que c'était très bien ce que j'étais en train de faire. J'ai eu une remarque, mais ça m'a cassé. Ça m'a cassé. Ça m'a vraiment fait mal. J'avais envie d'arrêter toute ma responsabilité. Et une autre fois, une remarque pour quelque chose qu'effectivement, peut-être j'aurais dû faire, c'était pas très grave, mais la manière dont ça a été dit, la manière dont on a insisté sur la remarque qu'on m'avait faite, même en public, ça m'a fait tellement mal. J'ai mis deux mois à guérir, à stopper cette colère et puis à pardonner cette personne. Les réalités sont là. Et puis heureusement qu'on s'arrête pas à ça, mais ça fait mal des fois. Et je vous dis, en tant que... je fais partie de l'équipe des responsables des jeunes, on entend souvent, c'est la faute des jeunes. Ah, c'est eux qui n'ont pas rangé, qui n'ont pas fermé, qui n'ont pas nettoyé, je ne sais pas. Alors, bon, on commence à avoir l'habitude. Et puis, pourtant, on est sérieux, je vous assure. Hein, les jeunes sont sérieux. On aime Jésus, on essaie de faire les choses bien. Il y a des gens qui prennent de leur congé pour ranger des armoires, là, qui sont mal rangées, tout ça. C'est fou, bref. Mais j'imagine que si on pointe des fois le doigt sur les jeunes, c'est aussi que parmi les plus anciens, il y a aussi des blessures. Il y a aussi des cassures, il y a aussi des choses que les... Peut-être que les plus âgés ne comprennent pas pourquoi les jeunes ils vivent comme ça, ils font comme ça. Bien sûr, il y a des blessures dans les deux cas. Je ne veux pas dire qu'il y a un qui est mieux que l'autre, ce n'est pas le but. Ce que j'essaie de dire là, c'est qu'on doit passer par-dessus. C'est qu'on doit passer par-dessus ça, sinon la division restera. Sinon l'écart entre les membres sera toujours là et le corps ne pourra pas être uni. L'amour de Dieu, c'est l'amour de l'impossible. Là où nous on peut pas, là où les blessures nous retiennent, là où la colère nous retient, là où la différence nous retient, là où la rancune ou les préjugés sur quelque chose, sur une personne qui est différente de nous, nous retient, l'amour de Dieu nous permet d'accéder à cette personne. Nous devons nous pardonner, nous devons guérir nos blessures, nous devons demander l'amour de Dieu pour être unis les uns aux autres. Nous devons faire preuve d'humilité, nous devons faire preuve de courage avec l'amour de Dieu. Aimons-nous. Nous avons besoin d'être unis, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Quand l'amour est en action, tout le reste peut être oublié. Tout le reste peut être oublié. Passons par-dessus nos différences. Seigneur, je ne veux pas être une source de division, je ne veux pas être une source d'écart par mes blessures, parce que je vis. Je ne veux pas mettre la main en avant en disant « Non, vous m'avez trop blessé, non, vous êtes trop différent de moi. » Non, je vais être comme Jésus. L'amour me pousse à aller vers les personnes qui sont plus loin, qui sont peut-être différentes. Pardonne-nous vraiment qu'on puisse donner le pardon. Et j'aimerais terminer avec mon dernier point, juste simplement nous encourager sur les fruits de l'unité. Je pourrais dire juste les fruits de l'unité, mais les fruits de l'unité même entre les générations. Si on décide d'être unis et de se lever pour être vraiment unis, un corps bien, bien solide, alors des fruits vont naître. Des fruits vont naître. Et je ne pouvais pas parler d'unité dans l'église sans me référer à la première église dans Acte 2, que j'aimerais vous lire, juste pour qu'on se replonge dans l'état d'esprit, l'atmosphère dans laquelle ils étaient quand ils se sont réunis pour cette première église. Je vais lire avec vous dans Acte 2, Acte 2, versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Waouh. C'est beau. Tous, j'imagine pas qu'il n'y avait que des 30-40 ans dans cette Église. Et vous savez, et ça c'est aux ados que j'ai réalisé ça, le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Je crois vraiment que un enfant de 5 ans peut être utilisé tout autant puissamment qu'une personne qui a 50 ans d'expérience de vie avec Jésus. Saint-Esprit n'a pas d'âge. Évidemment qu'il y a une maturité, il y a des choses qui sont différentes, mais le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Nous avons tous bu au même esprit. Et nous ne sommes pas là pour nous, mais pour l'épouse. Nous sommes là pour Christ. Et je crois vraiment que c'est vraiment beau cette première église. Simplicité de cœur, ils se réunissaient chaque jour, ils voulaient juste le bien de la communauté, ils vendaient tous leurs biens et puis répartir pour chacun, pour que tout le peuple, que toute l'assemblée, ils aient ce qu'il faut. Ils étaient juste tellement contents d'être ensemble, il y avait cette unité qui était là. Et qu'est-ce qu'on lit ? La faveur de Dieu était sur le peuple. La faveur de Dieu était là. Des miracles s'accomplissaient. Un des fruits vraiment d'une église unie, c'est de profiter de l'expérience de chacun. Je crois que nos différences ne sont pas une faiblesse, mais c'est une force. Les jeunes, je vous encourage vraiment à vous trouver des parents et des grands-parents spirituels dans cette église. Vraiment, allez, cherchez, essayez-en plusieurs, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça peut nous faire peur, ou j'en sais rien, il n'y a pas beaucoup d'affinités, mais vous ne vous rendez même pas compte le nombre de fois que j'ai été béni par des parents spirituels, par mes parents, par mes grands-parents. Juste, ils ont tellement d'expériences, ils ont tellement vécu de choses. Ce que vous avez vécu, c'est sans doute qu'ils l'ont vécu aussi. Sans doute qu'ils l'ont déjà vécu. Ils peuvent vous conseiller sur n'importe quoi. Ils peuvent juste prier pour vous, ils vont être là. Et des grands-parents, c'est génial, non ? D'avoir des grands-parents. Ils nous font des cookies spirituels. Profitez de ça. Puisez, il y a une ressource qui est là pour vous. Profitez-en. Bénissez-les aussi en passant. Priez pour eux, servez-les, aidez-les. C'est une bénédiction de pouvoir les bénir. Et puis, pour les plus âgés, ayez simplement un peu d'indulgence pour la jeunesse. Surtout, encouragez-les. On a besoin d'être cadré, des fois c'est vrai. On a besoin de votre expérience qui nous recadre et qui, des fois qui nous pique un petit peu, d'accord ? Mais on a besoin d'être encouragé par vous. Vous savez, je crois qu'un jeune, s'il y a quelqu'un de plus âgé qui est juste fier de lui et qui l'encourage, on est deux fois plus motivé. On a besoin de votre... Oui, vous priez. Et d'ailleurs, je vais vous dire merci parce que je sais que vous priez pour la jeunesse. Et c'est bon et on en a besoin. Continuez et encouragez-nous. Encouragez les jeunes que vous voyez à persévérer dans la foi. Encouragez-les. Dites-leur que vous êtes fiers d'eux. Regardez là, c'est fou cette vidéo, cette danse, ces gens comme ils président, ils font les annonces. On a 11 secteurs, encouragez-les, soyez fiers d'eux. Franchement, ça va vraiment nous faire du bien et ça va nous fortifier dans notre foi. Je crois vraiment que cette différence-là, on peut en profiter. Les fruits d'une église unie, c'est profiter de l'expérience de chacun. L'église unie, c'est un corps qui fonctionne bien. Et le corps qui fonctionne bien, Dieu peut s'en servir. Je veux dire, si les corps sont un peu disloqués, qu'est-ce que Dieu va faire avec ça ? Non, un corps qui fonctionne bien, il marche, il court, il est efficace. Un corps uni, il donne envie. Un corps uni, il grandit. Spirituellement, si on fait vraiment un effort, qu'on se lève pour s'unir les uns les autres, mais spirituellement, les amis, nos cultes, ils vont devenir complètement malades. Je ne dis pas qu'on vit rien, au contraire, on vit déjà de belles choses, mais de nouveaux miracles, de plus fréquents vont venir. Des dons, des personnes vont se lever encore et encore. Des dons vont venir et je crois vraiment qu'on va pouvoir améliorer encore dans notre qualité de vie, de culte et de peuple. L'Église va grandir, je pense aussi, en nombre. Chacun pourra trouver sa place dans un corps uni, dans un groupe où chacun prend soin des autres, chacun peut trouver sa place. Un corps, une Église qui accueille. Et surtout, un corps uni, c'est surtout la volonté de Dieu. On va pouvoir vivre dans la volonté de Dieu. Alors je ne dis pas que nous ne sommes pas du tout unis et divisés, mais je crois qu'on peut faire mieux. Je crois qu'il y a une réalité qui est là dans cet écart de génération. Et simplement, levons-nous, aimons-nous. Arrêtons de venir juste pour soi, de manière individuelle, je rentre et je sors de l'église. Mais venons comme un, comme une entité, comme un seul corps. On a besoin les uns des autres. Vraiment besoin les uns des autres et... Je crois aussi que dans le service, on peut beaucoup offrir. Une parole qui me vient maintenant, que dans le service, on peut facilement atteindre les autres. Mettons-nous vraiment, j'ai envie de dire, soumettons-nous les uns aux autres vraiment. Pour les autres, offrons quelque chose. Soumettons-nous à l'autorité peut-être de notre prochain. Aimons-nous. Amen, je vous propose qu'on prie maintenant. Mettons-nous devant Dieu, mettons notre cœur vraiment disposé devant Dieu. Laissons-lui la place. J'aimerais vraiment que des blessures puissent être guéries ce matin. Vous savez, si peut-être comme moi, vous avez été blessé par quelqu'un d'autre dans l'église, peu importe si c'est une autre génération ou pas, mettez cette blessure-là en lumière devant Dieu. Quelque chose peut-être qui vous ronge depuis des années, depuis une semaine peut-être que c'est tout frais. Mettez cette blessure devant Dieu. Donnez-la à lui, comme ça a été témoigné. Quand on lâche prise sur les choses, quand on donne à Dieu, Dieu bénit. Dieu prend ce qu'on lui donne. Et Seigneur, je te prie de venir. Saint-Esprit, descends sur nous avec cet esprit d'amour. Le même amour qui t'a poussé à venir à la croix pour nous. Viens avec cet amour. Viens guérir les blessures. Seigneur, viens soulager les blessures, les souffrances, Seigneur. Dû à ces écarts, dû à ces différences, Seigneur, différents âges, différences de culture, différences, Seigneur, juste de vivre notre foi, viens guérir les blessures. Seigneur, rends-nous attentifs les uns aux autres. Viens nous donner cet amour profond, solide, puissant, qui peut tout accomplir, qui peut tout guérir, qui brise les barrières, qui brise, Seigneur, juste tout ce qui nous retient de communier simplement et dans la joie. Remplis-nous de cet amour. Viens guérir les blessures. Viens, Seigneur Jésus, faire du bien au cœur. Viens briser, Seigneur, cet esprit d'individualité. Aide-nous, Seigneur, à penser comme un seul corps, comme un seul groupe de nous, de prendre chacun soin du troupeau, Seigneur Jésus. De vivre, Seigneur, l'Église. Et de ne pas aller à l'Église, mais d'être l'Église. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Nous ne voulons pas rester comme nous sommes, Seigneur. Nous ne voulons pas laisser un peu plus de place ou un tout petit peu de place à l'ennemi. Nous voulons refuser la division. Seigneur, je te prie pour une église unie. Une église qui s'aime. Une église qui aime son prochain. Une église qui fait attention à son prochain. Seigneur, pour un échange entre les générations, pour une richesse dans la différence. Apprends-nous à aller vers l'autre. Pousse-nous par ton amour, pousse-nous par ton amour, partage-nous ton cœur, montre-nous comment toi tu vois l'Église, Seigneur, dans la louange, Seigneur, qu'on ne se voie pas juste nous lever les mains, Seigneur, mais toi tu vois toute l'Église lever les mains, tu vois tout ton peuple qui t'aime, Seigneur Jésus. Fais de nous un peuple uni, un peuple qui fait la différence, Seigneur, une Église unie qui va donner envie au monde de faire partie de ce peuple élu. On a besoin de toi, on a besoin d'être transformé, Jésus. Alors viens nous transformer dans nos cellules de prière, dans nos rencontres hebdomadaires, Seigneur Jésus, dans notre vision de voir l'Église. Transforme-nous, Seigneur, permets simplement que l'Église puisse te plaire et vivre dans ta volonté. Seigneur, nous voulons te rendre gloire et te remercier pour ta parole. Merci pour qui tu es, merci pour cet amour infini, pour ta grâce que nous ne méritons pas mais dont nous avons besoin. Seigneur, nous te rendons gloire en toutes choses. Bénis ton Église, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.